Paul dit dans Colossiens 3, verset 15, que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants, c'est vraiment à l'impératif. La Bible nous exhorte à être reconnaissants, à avoir une attitude reconnaissante. Ça doit être notre état normal dans la vie de tous les jours, d'être reconnaissant. Mais être reconnaissant de quoi, au juste? On vient de chanter contre les bienfaits de Dieu. Mais ça peut arriver que certains d'entre nous, une journée spécifique où c'est difficile de compter les bienfaits. Ou il peut arriver qu'on n'ait pas vraiment de bonnes nouvelles. Quelqu'un nous demande si on a un sujet de louange, puis on n'en a pas qui nous vient à l'esprit. On peut penser qu'on n'a pas de sujet de louange. Est-ce que ça se peut, ça? Comment on peut obéir à ce commandement-là, d'être reconnaissant, si on ne voit rien pour lequel on devrait être reconnaissant? Bon, vous connaissez déjà la réponse, j'en suis sûr, mais on va s'y convaincre ce matin, ensemble. L'histoire qu'on étudie aujourd'hui se passe à l'époque de Jésus, alors qu'il est dans son dernier voyage vers Jérusalem. Il part de la Galilée où il a entrepris sa dernière marche avec ses disciples vers le lieu où il va être sacrifié. Il va mourir. Et il doit passer sur la frontière de la Samarie. La Samarie qui se trouve en Palestine. On a la Galilée au nord, où il y a la mer de Galilée. Et au sud, on a la Judée, où il y a Jérusalem. Mais entre les deux, on a la Samarie. Et Jésus, avec ses disciples, doit longer la Samarie pour aller jusqu'en Judée. Donc, il passe sur la frontière. Il rencontre des villages qui sont soit en Judée ou dans la fin de la Galilée, ou des villages qui sont en Samarie. Mais ce n'est pas un détail sans importance, c'est que la Samarie n'était pas considérée comme faisant partie du peuple d'Israël. À cette époque, les Juifs ne considéraient pas les Samaritains comme étant leurs frères. Et les Samaritains ne considéraient pas non plus les Juifs comme étant leurs frères. Les Samaritains étaient des descendants mélangés des Juifs et des Assyriens. Et ils n'étaient pas frères. Au contraire, même les Juifs les considéraient comme des païens, des pécheurs, des impurs auxquels il ne fallait pas s'approcher, comme s'ils avaient la peste. Et effectivement, ils n'étaient pas... ils étaient païens. Ils pratiquaient une religion tirée du judaïsme et du paganisme aussi. Ils croyaient aux Écritures, mais seulement les 5 premiers livres qu'ils considéraient être la parole de Dieu. Le reste de l'Ancien Testament, ils ne considéraient pas que c'était la parole de Dieu. Et ils déformaient aussi les Écritures. Donc, les Juifs les détestaient, et eux aussi détestaient les Juifs. Et au début du voyage même de Jésus, lorsque Jésus est parti de Galilée pour descendre à Jérusalem, il devait faire des provisions, des préparatifs pour son voyage, et il a envoyé ses disciples dans un village des Samaritains. Il n'a pas été reçu. Ce village-là n'a pas reçu Jésus ni ses disciples. On pense que ses disciples étaient en colère, mais Jésus les a repris. Mais on voit que pour les Samaritains, de savoir qu'un groupe descend pour aller à Jérusalem, tout de suite, ils étaient barrés. Que des gens fassent le chemin inverse, c'était acceptable, mais pas qu'ils se rendent à Jérusalem. Ça, c'était intolérable pour eux. On va lire maintenant le Luc 17, versets 11 à 19. L'Évangile de Luc, dans le Nouveau Testament, chapitre 17, à partir du verset 11. Luc 17, verset 11. « Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Et ils se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous! » Et en les voyant, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Et Jésus prit la parole et dit, « Mais les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils? » Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner de gloire à Dieu? » puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Donc, lorsque les lépreux sont venus vers Jésus, alors qu'il approchait du village, ils se tenaient à distance. Non pas qu'ils avaient peur de Jésus, ou qu'ils étaient gênés, mais c'est parce qu'ils avaient la lèpre. C'était non seulement la coutume, c'était une loi. Une bonne loi, parce que la lèpre est une maladie très contagieuse. Mais dans Lévitique 13, versets 45 et 46, il dit, « Le lépreux, atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés, et il aura la tête nue, il se couvrira la moustache et criera, « Impur, impur !» Et aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Étant impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. » Bon, Dieu l'avait ordonné que les lépreux soient à part. Et parmi eux, on apprend qu'il y avait un Samaritain. Pourtant, ils étaient ennemis, mais on voit souvent cela. Hein? Les gens qui vivent un malheur, un grave malheur, et qui rencontrent d'autres qui partagent cette même souffrance-là, peuvent s'unir dans ce malheur-là. C'est comme si les barrières tombent. Le malheur est plus important que les différences de nationalité. Alors, ils étaient ensemble et ils ont supplié Jésus de venir à leur aide. Et Jésus a accepté. Mais il leur a répondu quelque chose d'étonnant. Il a répondu, « Allez voir les sacrificateurs. » Cela aussi faisait partie de la loi. Il dit dans Lévitique 14, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici quelle sera la loi concernant le lépreux, le jour de sa purification. On l'amènera vers le sacrificateur sortira du camp, et si le sacrificateur voit que le lépreux est guéri de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne, pour celui qui doit être purifié, deux oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Et le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau courante. Quant à l'oiseau vivant, il le prendra, ainsi que le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope. Il les trempera, ainsi que l'oiseau vivant, dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau courante. Et il en fera sept fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur et lâchera dans la campagne l'oiseau vivant. Celui qui se purifie nettoiera ses vêtements, il rasera tout son poil et se lavera dans l'eau, et il sera pur. Ensuite, il pourra rentrer dans le camp, mais il restera sept jours hors de sa tente. » On voit toute une cérémonie, beaucoup de protocoles, on voit tout le symbolisme qui est fort, où l'homme est purifié, et il devait faire tout cela en présence du sacrificateur, et le sacrificateur prenait part à sa purification. Et c'est ce que Jésus a envoyé faire, a envoyé les lépreux faire. Donc, Jésus observait toute la loi. Mais lorsque Jésus les envoie, ils n'étaient pas encore guéris. Donc, il leur demande, dans un sens, un pas de foi. Il leur dit, allez voir les sacrificateurs, pourtant, il leur dit, c'est le jour de votre purification. Mais ils étaient encore lépreux lorsqu'il leur demande cela. Donc, on peut dire que les lépreux avaient une certaine foi. Mais simplement pour s'être approché de Jésus aussi et avoir crié à son aide et pitié de nous, ils devaient croire que Jésus avait la puissance de les guérir. Peut-être qu'ils avaient entendu parler de Jésus, sûrement. Ils avaient entendu parler de ses guérisons. Puis ils s'approchent de lui. Ils pouvaient croire que Jésus était assez puissant pour les guérir. Ils savaient qu'il pouvait faire quelque chose pour eux. Et ils le croyaient au point où ils sont partis vers les sacrificateurs, même avant d'être guéris. Mais je pense que Jésus a permis cela pour montrer qu'il y a une différence entre ce genre de foi, le fait de croire que Jésus est capable de faire des choses, et la véritable foi, parce qu'un seul est revenu. Donc, il y a une autre sorte de foi. Et c'est seulement à celui qui est revenu que Jésus a dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » La foi qui sauve n'est pas simplement de croire que Jésus est puissant et qu'il peut exaucer les demandes. Même ceux qui n'ont pas été justifiés, même ceux qui ne sont pas chrétiens, parfois se tournent vers Jésus et le prient, lui font des demandes. J'en ai connu personnellement des gens que je sais qu'ils n'étaient pas croyants. Et lorsque le malheur arrive, ils sont prêts à se tourner vers ce Jésus, puis je demande ton aide. Ils sont prêts à croire même que Jésus peut les sauver, les guérir ou les sauver de leur malheur physique ou terrestre, temporel. Plusieurs sont prêts à croire cela. Même les démons croient cela. Lorsque Jésus a rencontré, vous vous souvenez d'un épisode où Jésus rencontre un démoniaque qui a en lui une légion de démons. Les démons qui sont dans ce démoniaque-là, dans ce possédé, reconnaissent la toute-puissance de Jésus. Ils reconnaissent que c'est le Fils de Dieu qui est là, le Tout-Puissant. Ils croient cela. Et même, ils implorent sa pitié. Et Jésus leur accorde sa pitié. À leur demande, il les envoie dans un troupeau de cochons, de pourceaux. Donc, Jésus peut même avoir pitié, il peut même répondre favorablement à des gens qui lui demandent son aide, sans pour autant qu'ils aient une foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Pas seulement quelqu'un qui peut exaucer nos demandes, prendre soin de nous, mais qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu. Et que s'il peut guérir, c'est parce qu'il est Dieu, parce qu'il détient l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu. Et qu'il le fait par amour, parce que Dieu est amour. Et le Samaritain est revenu et il a glorifié Dieu. Il a rendu des louanges à Dieu parce qu'il avait été guéri. Et il ne s'est pas seulement adressé à Dieu le Père, il est allé s'agenouiller devant Jésus. Il s'est prosterné, il s'est jeté aux pieds du Fils de Dieu. Donc, puisqu'il glorifiait Dieu de l'avoir guéri et qu'il s'agenouillait aux pieds du Fils de Dieu, c'était sa confession de foi. « Je reconnais que tu es Dieu. » Il a reconnu que Dieu était présent sur terre en la personne de Jésus. Et il a été plein de gratitude, il a été reconnaissant. Et ce n'est pas un élément superflu. On le voit à plusieurs endroits dans la Bible que la reconnaissance, le fait d'être reconnaissant envers Dieu, envers Jésus, est une marque de la véritable foi. C'est un élément de la véritable foi. Celui qui dit être sauvé, mais qui n'a jamais manifesté, ni dans son cœur, ni en parole, ni en action, une reconnaissance envers Dieu, bien, il n'a pas compris. Il n'a pas compris le sacrifice que Jésus a fait pour lui. Dieu le dit dans le psaume 50, verset 23, « Celui qui, en sacrifice, offre la reconnaissance, me glorifie. Et il veille sur sa voie, et je lui ferai contempler le salut de Dieu. » Donc, c'est une caractéristique de celui qui glorifie Dieu et qui est sur la voie du salut, que Dieu va sauver et qu'il sauve. Une caractéristique qui est la reconnaissance. Des actions de grâce, de rendre grâce à Dieu. Celui qui a la véritable foi est reconnaissant parce qu'il a compris que ce que Dieu lui a fait est une pure grâce, qu'il ne le méritait pas. C'est ce que le Samaritain avait compris. Et peut-être qu'à cause de sa nationalité, à cause de l'endroit où il vivait, ça l'a aidé à ce qu'il comprenne la grâce de Dieu. Parce que Jésus, un Juif, qui avait été envoyé parmi les Juifs pour prêcher aux Juifs, a guéri un Samaritain, un étranger. Et il a vu qu'il ne méritait pas cela. Là. Il ne méritait pas toute l'attention d'un prophète parmi les Juifs. Et surtout pas la guérison, qu'il soit pur, toute cette bonté. Et il a compris la grâce de Dieu. Il savait qu'être un païen, il savait qu'il était un païen, un pécheur, qu'il ne méritait pas d'être sauvé. Et parce qu'il était conscient de cela, non seulement sa purification a été physique, mais elle a été spirituelle. C'est son cœur qui a été lavé ce jour-là. Et il était tellement content qu'il a fait une action de grâce, c'est-à-dire qu'il a compris la grâce de Dieu et il l'a remercié. C'est ça une action de grâce. C'est qu'on comprend que les bienfaits de Dieu sont une grâce et on est reconnaissant, on le remercie. Rendre grâce, c'est glorifier Dieu en retour de sa grâce. C'est donner gloire à Dieu. C'est célébrer la gloire de sa grâce, comme dit Paul dans Éphésiens. Puis le lépreux, sûrement, a été encore plus touché s'il a appris peu de temps après que celui qui l'avait purifié s'est sacrifié pour lui. Qu'il l'a sauvé parce que ses péchés pouvaient être pardonnés, parce qu'il allait mourir pour lui. Le lépreux, s'il a entendu ça par la suite, il a dû être touché et encore plus conscient de la grâce de Dieu. Pour ceux d'entre nous qui sommes sauvés, même quand nous n'avons pas de sujet précis de louange, on ne peut pas dire mais il n'arrive rien de spécial dans ma vie pour l'instant. Là. Mais en fait, tout cela est secondaire. Là. Juste le fait qu'on ait été purifié de notre lèpre spirituelle est un sujet de louange qui devrait remplir toutes nos prières et nous pousser à le louer pour tout le reste. C'est d'ailleurs notre reconnaissance envers Jésus qui maintient notre amour pour lui. Comment on fait pour aimer Jésus sans en étant reconnaissant, en se souvenant de ce qu'il a fait pour nous? Sans reconnaissance, l'amour s'éteint. Et je pense que c'est cela que Jésus reproche à l'Église d'Éphèse dans l'Apocalypse, quand il dit qu'ils ont oublié leur premier amour. Ils ont oublié là, d'où ils étaient tombés, comment ils ont été sauvés. Ils ont cessé d'être reconnaissants. Et ils ont commencé à pratiquer les œuvres de justice simplement par routine, par religion, par tradition. Jésus, un jour dans son voyage, a rentré dans une maison, dans la maison d'un pharisien, Simon. Et il lui parlait à propos d'une femme qui était en train de laver ses pieds avec ses cheveux. Puis il se tourne vers la femme et il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ces nombreux péchés, parce que le pharisien voyait bien que c'était une femme pécheresse, il dit, ces nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Là, il le piquait à l'endroit où ça fait mal. Le pharisien n'avait pas vraiment d'amour pour Jésus parce qu'il ne sentait pas le besoin d'être pardonné. Mais en réalité, il avait autant besoin d'être pardonné qu'à cette femme. Ça peut être un test. Est-ce que vous pensez que vous êtes sauvé? Avez-vous l'assurance d'être sauvé? Avez-vous déjà été reconnaissant pour Dieu? Avez-vous déjà ressenti l'amour pour Dieu, pour Jésus d'être mort pour vous? Si c'est jamais arrivé, peut-être que vous pensez que vous n'avez pas beaucoup de péchés à vous faire pardonner. Mais la Bible nous dit que nous sommes tous de grands pécheurs. Et vous pouvez être pardonné dès maintenant et être reconnaissant envers votre Dieu qui vous pardonne. Croyez que Jésus, lorsqu'il est venu sur terre et qu'il est mort à la fin de son voyage de la Galilée vers Jérusalem, qu'il est mort pour vous. Il avait en tête votre nom. Il savait, dans 2000 ans, cette personne-là sera assise à l'église de Rosemont à Montréal et je meurs pour elle. Croyez-le et vos péchés seront lavés. Ensuite, soyez reconnaissants. Rendez-lui de gloire. En toute chose, votre vie devient, toutes les occasions de votre vie deviennent des occasions pour glorifier Dieu. C'est intéressant de voir le passage précédent, juste avant que Luc nous rapporte cet épisode des 10 lépreux. Juste avant, au chapitre 17, à partir du verset 7, Jésus enseigne et dit, « Qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Ah, viens tout de suite te mettre à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi le repas, mets-toi ensuite en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, et après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. » Aura-t-il de la reconnaissance envers ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Vous, de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Ici, Jésus explique que le service que l'on fait à Dieu, on n'a pas à se glorifier d'avoir fait cela. On n'a pas à attendre non plus comme si c'était un dû les bénédictions de Dieu. On ne fait qu'obéir. Dieu est le maître de la maison qui donne des consignes, des ordres à ses serviteurs. Et le fait que nous remplissions même à 100% ce qu'il nous demande n'est pas un acte méritoire. On ne fait que jouer le rôle qui nous est confié. Jésus est en train de dire qu'à toutes les fois que Dieu nous bénit, prend soin de nous, c'est une pure grâce. Ce n'est pas parce qu'on le mérite. Ce n'est pas une récompense pour nos efforts. Ce n'est pas une récompense parce qu'on est un bon garçon ou une bonne fille. Tout ce que Dieu nous donne est une pure grâce. Il n'a pas besoin de le faire. Il n'a pas le devoir de le faire. Il est totalement libre, mais il nous le donne par amour, par grâce. C'est ce que le lépreux a compris. Jésus n'avait pas le devoir de le guérir. Parce qu'il était un pécheur, il ne méritait certainement pas cela. Et même s'il avait été pur, sans péché, Jésus n'avait pas le devoir de le guérir. Il l'a fait par pure bonté, par grâce. C'est ce qui a touché le cœur de ce lépreux. Nous devons donc être reconnaissants, car Dieu n'a pas le devoir d'être bon envers nous. Nous devons célébrer sa grâce. C'est pour ça que nous rendons grâce, que nous portons des actions de grâce. On peut être reconnaissant envers Dieu de pouvoir aller dans sa présence, être réunis ici. Et Jésus dit, « Je suis avec vous. » Nous pouvons être dans la présence de Dieu. Surtout quand on prend conscience qu'on avait perdu ce privilège avant. Avant d'être réconcilié avec Dieu, on ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. On n'avait pas accès au sanctuaire. Et même si on se réunissait, avant d'être réconcilié avec Dieu, c'était vain tout cela. On peut bâtir de belles cathédrales, chanter de beaux chants, faire de belles actions. Si on n'est pas réconcilié avec Dieu, tout cela est vain. C'est parce qu'on est réconcilié avec Dieu que là, on peut entrer dans sa présence. C'est une pure grâce, là aussi. Mais on comprend cela, on comprend à quel point c'est un privilège lorsqu'on comprend et qu'on prend conscience qu'on l'avait perdu. Il y avait un homme qui était aux prises avec un cancer de la gorge. Et il a subi des traitements de radiation. Et ça l'a guéri. Mais malheureusement, à cause de ces traitements-là forts, il a perdu l'usage du goût. Ses papilles gustatives ont cessé de fonctionner. Donc, à partir de ce jour-là, lorsqu'il mangeait, ça ne goûtait rien. Tu manges des patates ou tu manges... peu importe quoi, du steak, ça goûte la même chose, ça goûte rien. Ça devient pénible. Là, tu perds ce privilège-là, cette joie de pouvoir goûter. Et cet homme-là, les semaines passaient, les mois passaient, puis il ne goûtait rien. Là, manger, c'était devenu une corvée. C'était une simple action pour survivre. Jusqu'à ce qu'un soir, lorsqu'il a pris la première bouchée de son souper, il a vu que le goût lui revenait. Là, c'était un repas que chacun de nous, on aurait considéré comme fade. Mais pour lui, c'était le meilleur mets qu'il avait jamais goûté de sa vie. Parce qu'il n'avait pas goûté depuis longtemps. Il avait perdu cette joie-là de pouvoir goûter quelque chose de bon. Et il l'a apprécié. Puis il rend témoignage, cet homme-là, que par la suite, il a rendu grâce à chaque fois qu'il a mangé, juste parce qu'il était capable de goûter. Et il a pris le temps de réfléchir et de savourer chaque bouchée. Il a été plus conscient du privilège qu'il avait de pouvoir goûter. Mais c'est la même chose dans toutes les sphères de la vie. Notre sœur Céleste, qui malheureusement ne peut pas être avec nous, elle est prise à cause de sa situation de santé qui dégrade. Elle ne peut plus faire le trajet pour venir ici. Mais pendant un temps, à cause de sa maladie, elle ne voyait plus rien, elle est devenue aveugle. Puis là, tout à coup, quelques semaines après, elle a recouvert l'usage de la vue d'un œil. Mais c'était une grande joie pour elle. Tous ceux qui ont eu une jambe cassée et qui n'étaient pas capables de courir, qui voyaient les autres enfants courir, lorsqu'ils ont été capables de recommencer à courir, ils ont apprécié de pouvoir marcher, de pouvoir courir. On entend le témoignage de missionnaires qui sont allés dans d'autres pays où il n'y a pas l'eau courante. Quand on revient ici, là, on l'a brisé. Il y a plein de choses qu'on n'apprécie pas parce qu'on n'y pense plus, on ne prend pas conscience de cela. Une foule de bienfaits. Et Dieu le sait qu'on a tendance à oublier. Et c'est pour ça que Dieu a dit à son peuple, le peuple d'Israël, alors qu'ils allaient entrer dans la terre promise, Dieu savait que quand ils vont entrer dans la terre promise, ils vont être tout contents, après ils vont s'habituer, ils vont m'oublier. Et il leur dit dans Deutéronome 8, « L'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, un pays de cours d'eau, de sources et de nappes souterraines qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, un pays de froment, d'orge et de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, un pays où tu mangeras du pain sans avoir à te rationner, où tu ne manqueras de rien, un pays dont les pierres sont du fer et les montagnes duquel tu extrairas le bronze. » Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Puis on voit les prophètes par la suite qui ont constamment rappelé le fait que le peuple d'Israël était passé par un temps très difficile en Égypte, un temps difficile dans le désert, qui leur rappelait constamment, beaucoup de psaumes en parlent aussi, pour qu'ils puissent apprécier ce qu'ils ont. On peut, nous aussi, faire l'effort de réfléchir à tout ce que nous avons. C'est pas vrai qu'on n'a aucun sujet de louange. Et même si on ne l'a jamais perdu, si on réfléchit au fait qu'on pourrait en être privé, on peut l'apprécier. Dans toutes les sphères de la vie, au niveau de notre santé, même si notre santé n'est peut-être pas parfaite, il y a des aspects de notre santé qui... des aspects qui sont bons. On peut louer le Seigneur pour notre travail, la maison qu'on a, ou l'appartement, ou tous les biens matériels que nous avons. La paix dans ce pays. La vie qu'il nous donne. À chaque jour, il nous donne le souffle de vie. Il peut nous éteindre en un instant. Chaque jour que nous vivons est une grâce. Pour les parents, les enfants qu'ils ont, c'est une grâce de Dieu, une bénédiction. On peut aussi faire l'effort de réfléchir à toutes les bénédictions spirituelles de Dieu. Parce que même quand tout va mal sur cette terre, mais c'est rien en comparaison de toutes les bénédictions spirituelles de Dieu qui recouvrent tout cela. On peut être dans les pires souffrances, mais encore être dans la joie. Dieu nous a pardonné nos péchés, nous a lavés. On appartenait au péché, on appartenait au diable. Et par le sacrifice de Jésus, il nous a rachetés. On lui appartient maintenant. C'est tout un privilège. Il nous donne la vie éternelle. Donc, non seulement il nous a rachetés, ce n'est pas temporaire, c'est pour l'éternité avec lui. Il va nous faire rentrer dans sa gloire. Il nous a admis dans cette nouvelle société de Christ, l'Église, qui n'est pas seulement terrestre, qui est en plus céleste et qui va durer pour l'éternité. Il nous a scellés du Saint-Esprit. Il a comme à poser son sceau pour que l'héritage qu'on aura au ciel, on est des concitoyens du ciel, soit garanti. On ne le perdra pas, c'est comme un contrat qui est signé par Dieu. Personne ne peut effacer sa signature. Il nous a admis dans son peuple, dans sa famille. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu, le Créateur de l'univers, est devenu notre Père. Et il nous a donné toutes sortes de joies qu'on peut expérimenter sur la terre. Il nous a donné la liberté. Il nous a donné la paix. Même dans les épreuves, on peut être en paix. Même face à la mort, on peut être en paix. On peut être dans la joie, mais une joie qui surpasse toutes les épreuves qu'on peut vivre. Il y a une espérance qui enlève toute peur, toute crainte. Un amour qu'on peut recevoir de nos frères. Et l'amour de Dieu en nous qui nous permet même d'aimer nos frères. C'est déjà un avant-goût du ciel. Et on peut apprécier toutes ces bénédictions, même pendant les épreuves. C'est ce que Paul témoigne dans Philippiens 4. Il dit, « J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. En tout temps, rendons gloire à Dieu. Remercions-le pour tous ses bienfaits. Parce qu'il est digne de gloire. Jean a vu un ange lorsqu'il a écrit l'Apocalypse, dans Apocalypse 14, 7. Cet ange disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Amen.